7h58, qu'est-ce qui se passe sur la route, Max? Est-ce que ça a changé le topo en cette journée ensoleillée, en cette dernière journée de la semaine?
Oui, malheureusement. C'était quasiment un matin parfait, là, à part, tu sais, il y avait eu un petit incident entre Pont-la-Porte très, très tôt ce matin. Depuis ce temps-là, c'était tout au vert. Et là, ben, il y a quand même un bon problème, là, un accident sur Henri IV Nord, hauteur boulevard du versant nord. Ça cause quand même la fermeture de 2 voies sur 3. Fait que bon ralentissement à prévoir si vous êtes capable de passer à côté de ça. Ça va être pas pire.
Moins 15 degrés, le vent s'est levé à Québec. On est autour de moins 21 avec le refroidissement éolien. Pour aujourd'hui, ce sera une journée nuageuse avec des quelques percées de soleil. C'est ce qu'on nous mentionne, maximum de moins 4 degrés. Demain, même chose, sauf qu'on va avoir un cocktail dans la matinée. Ça pourrait être de la neige, ça pourrait être de la pluie. Puis par la suite, ce sera une alternance de soleil-nuage. On pourrait avoir demain une accumulation de neige d'à peu près 2 cm, maximum de plus 4 degrés. Et dimanche, ce sera de la neige avec un maximum de moins 9. Elle est arrivée, c'est Jean Saint-Étienne. Varel.
À Boulevard 102.1. Dans Marceau le matin, c'est vendredi et on se fait une tête sur les gros dossiers de la semaine. Voici Jacinthe et Varel.
C'est vendredi avec Jacinthe et Varel. Comment ça va?
Bien, merci.
Oui, content que tu sois là. Tantôt, je parlais avec la présidente de la FAE, Mélanie Hubert, puis on parlait de la violence à l'école. Puis selon une étude qu'elle a consultée, on lui a dit que la violence à l'école, c'est en raison de Trump, c'est en raison d'Elon Musk.
Puis du méchant hockey.
Puis du hockey.
Pas pour rien qu'Isabelle Charrette a dit plus de bataille au hockey.
Ouais, j'étais là, tabarouette. Il me semble qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de raccourcis dans ce qu'elle mentionne, là, la présidente de la FAE. C'est quand même la représentante des enseignants au Québec.
Oui, ben elle a oublié Poutine aussi.
Oui, c'est ça. Je vais être très honnête avec toi. Mon enfant de 10 ans sait qui est Donald Trump, mais connaît aucun discours de Donald Trump. Puis j'entends des fois, quand il joue aux jeux vidéo, des commentaires de la part de ses amis que j'aime pas du tout et ils connaissent pas plus Donald Trump. Puis le geste nazi d'Elon Musk, ils l'ont pas vu. Mais c'est des petits joueurs de hockey, fait que ça doit expliquer pourquoi
Voilà,
il y a autant de racistes et d'homophobes au Québec.
C'est parce que, comme moi, tes pères d'enfants qui jouent au hockey, donc tu leur as montré à être homophobe, misogyne et raciste.
C'est triste, hein, pareil, d'entendre ça. Là, je veux dire, c'est des gens qui sont très éduqués. Puis de répéter ça comme ça en disant... si je me le fais dire, ça doit être vrai, donc je vais le répéter. Réfléchissons un peu ensemble.
Mais tu vas voir quand ils vont avoir... ils sont à quelques années là, derrière mes garçons, tes garçons. Et mes garçons secondaires reviennent régulièrement à la maison avec des propos qu'ils entendent. Et ils se disent, mais il y a donc bien des raccourcis intellectuels. Les gens sont dans les croyances, hein, beaucoup. Ouais. Dans les croyances. Et on véhicule des croyances. Même les enseignants, des jeunes un peu allumés là, ou avec un esprit critiques sont en mesure de... Ça revient à la maison, puis ça dit, il y a un tel prof, là, il est dans des croyances incroyables, puis...
Ils sont plus dans le factuel.
Non, c'est ça.
Moi, je remercie le prof de maths des Doux en secondaire 4 à l'école Les Sentiers qui, l'autre jour, pour enseigner les probabilités, a installé un but de hockey dans la classe. Un goaler, puis il leur a dit, guess, c'est à telle place, le goaler est placé de telle place, voici les pourcentages que tu as de marquer là. Wow. Et il doit scorer 2 goals la game après. J'ai dit merci au prof de maths. J'ai dit, crème, vous avez vraiment bien enseigné les probabilités à mon garçon.
Exact. Hey, y a plein de choses que je veux jaser avec toi. Puis des fois, c'est des choses qu'on prévoit pas jaser ensemble. Mais tu sais, on parlait, toi et moi, de la fenêtre d'Overton qui s'est déplacée. Ouais. Là, maintenant, c'est rendu à la mode. Là, les gens peuvent dire, hey, moi, je suis de centre droit économique. Puis ils se font plus juger comme s'ils étaient Saddam Hussein ou Satan en personne. Je trouve ça intéressant. Là, maintenant, on s'attaque à l'immigration. Et là, on dit, il y a peut-être trop d'immigrants. Notre capacité à absorber toute cette belle immigration-là, on est débordé, on n'est plus capable. Là, maintenant, le Parti québécois se dit, regarde, ils auront bien beau nous traiter de racistes, on va faire paraître quand même un sondage. Puis dans ce sondage-là, c'est plus de la moitié des Québécois qui trouvent qu'il y a trop d'immigrants. C'est-tu une bonne chose que, que ça revienne, qu'on puisse reparler de ce sujet-là? Parce que là, 5 ans, si on parlait de ça, je t'annonce qu'ils voulaient brûler notre station de radio.
Oui, absolument. Dès qu'on remettait en question les taux d'immigration, juste les taux, je me rappelle, on parlait de baisser les taux à place d'en accueillir 60 000, en accueillir 50 000 ou en accueillir 30 000. Et ces gens-là qui prônaient de baisser les taux se faisaient traiter de racistes carrément, d'intolérants, de sociétés non accueillantes.
Mais je trouve ça courageux de la part du PQ de mettre ça de l'avant.
Oui. Ben oui, absolument, parce que il y a des enjeux réels qui sont... Puis là, tu sais, on l'entend quand même encore un peu des gens qui disent « Ah, oh, vous dites que c'est la faute des immigrants. » Non, il n'y a personne qui dit ça.
C'est pas ça. Ça prend une capacité d'absorption de ces gens-là. Il faut avoir des écoles pour eux, il faut avoir des bonnes jobs pour eux. On ne veut pas qu'ils vivent sous le seuil de la pauvreté, des CPE. Tu sais, puis je lisais un article de Mathieu Bock-Côté il y a quelques jours qui mentionnait que le prochain Justin Trudeau... en politique, il était peut-être déjà en place. C'est Bruno Marchand qui, lui, veut accueillir des immigrants d'une façon incroyable. Mais faut être capable de déloger ces gens-là.
Ben oui.
Tu fais quoi? T'sais, moi, quand je vais à la Bouchée Généreuse, je ne sais pas si c'est avec Max ou Jeff. C'est avec Jeff que je parlais de ça ce matin. Ouais. C'est 90-95% des gens bénéficient de la ben Bouchée Généreuse. C'est des gens qui viennent d'arriver au Québec, au Canada, en fait. Mais je veux dire, moi, je veux pas qu'ils bénéficient de ça. Je veux qu'il y ait des bonnes jobs, qu'ils soient capables d'aller à l'épicerie comme monsieur et madame tout le monde.
J'ai fait la distribution le 24 décembre. Plus de 90% des bénéficiaires de la Banque alimentaire de la Bouchée Généreuse étaient des personnes issues de l'immigration.
Ça veut dire qu'on n'est pas capable de les absorber.
Oui. Bien, puis ça soulève d'autres enjeux connexes dont on parle moins. Mais tu sais, quand on parle de pouvoir les accueillir, pouvoir les loger, ça amène aussi le sujet de la construction. Et là, il y a des gens pour dire, bien, on a juste à augmenter la construction. Il faut savoir que l'industrie de la construction, elle est excessivement sollicitée par les projets d'infrastructures publiques qui sont souvent plus payants que la construction résidentielle. Ça, on en parle très peu, mais il y a plein de raisons pour lesquelles on ne voit pas des projets domiciliaires à perte de vue un peu partout dans les banlieues, comme on a déjà vu dans les années 80-90, où est-ce que les banlieues s'étendaient. Là, on est dans une doctrine de densité urbaine, donc construire des grosses tours à condos. Ce n'est pas le même genre d'entrepreneur qui construit des tours à condos que développer des quartiers résidentiels. Donc, on a changer complètement le modèle aussi de construction ou de vision qu'on a de nos villes. Et ça, bien, ça amène aussi des enjeux de pression sur les logements. Et bien, quand en plus de ça, bien, on le voit, là, vous connaissez des gens dans l'industrie de la construction, on a peut-être qui nous écoutent, les projets d'infrastructures publiques sont plus payants. Donc, tu vas-tu aller développer des quartiers où est-ce que tu veux construire une nouvelle rue avec une trentaine de maisons ou est-ce que tu vas te bloquer à plein de barrages du palier municipal du palier provincial pour aller faire une marge de profit quand même raisonnable, alors que tu peux postuler sur la rénovation d'un hôpital ou d'une école. Et à ce moment-là, ben là, tu peux gonfler ta facture en plus parce qu'on le voit, on a toujours des dépassements de coûts. Ça semble être flou, les dépenses qui sont faites dans les infrastructures publiques. Ouais. Ben, mais ça, on n'en parle pas beaucoup non plus, mais ça a un lien avec l'immigration. Quand on dit qu'il faut être capable de les loger, il y en a qui ont toujours la réponse facile de dire « Bon, on a juste à construire plus. » Attendez une minute, là. C'est pas de même, ça marche,
non.
Là.
Ben, y en a qui ont tout le temps la solution facile, mais anyway, je trouve ça intéressant qu'on puisse reparler de ça puis qu'on puisse être fixé sur justement combien on veut d'immigrants année après année pour être capable de bien les accueillir dans cette belle province. Tu as suivi les dossiers Epstein. Est-ce qu'on en parle assez au Québec des dossiers Epstein puis les gens qui sont impliqués?
Hey, on en parle pas mal, hein?
Ouais.
On a une fascination pour ça.
Parce que moi, là, quand j'entendais parler des dossiers Epstein, là, j'entendais tout le temps Donald Trump. Là.
Ouais.
Mais là, de plus en plus, on entend d'autres noms sortir. Des noms franchement aussi intéressants.
Oui, ben oui. On a vu d'ailleurs le Prince Andrew, c'est la figure la plus, je dirais, spectaculaire, le Prince Andrew, qui, suite à des documents là, qui sont rendus publics, s'est retiré de sa vie et a perdu tous ses honneurs parce qu'il semble être dans l'embarras. On est toujours quand même encore dans le flou beaucoup par rapport à ça parce qu'on a des pièces démontrant des liens de proximité, mais jamais des actes répréhensibles très clairs. Donc, ça anime beaucoup les envies de potins des gens. Mais c'est vrai que les noms qui circulent sont de plus en plus variés et on en voit en Europe tomber, aux États-Unis.
J'ai-tu vu Stephen Hawking passer ses réseaux sociaux? C'est-tu une fake news, ça, Stephen Hawking, qui est avec deux filles sur le bord
j'ai pas vu ça passer.
La piscine? On dirait que ça me surprend de lui, là, mais je n'ai pas nécessairement cherché à savoir s'il était bel et bien sur cette île-là de Jeffrey Epstein. Mais chose sûre, c'est que Bill Clinton... Il apparaît souvent. Là.
Oui, Bill Clinton apparaît souvent. D'ailleurs, c'est lui qui va témoigner aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de la réplique d'Hillary Clinton qui dit qu'il faudrait que Trump vienne témoigner aussi? Est-ce que Trump devrait venir témoigner juste pour rendre cette commission-là plus crédible?
Bien, c'est une commission politique, hein, ça. Il faut savoir que ce n'est pas un tribunal, là, c'est une commission politique. Alors, c'est une belle pièce de théâtre, malgré tout, parce que démocrates et républicains se lancent de la boîte, appellent à témoigner d'autres adversaires. Moi, je pense qu'Hillary Clinton, à la veille du témoignage de son mari, a un peu essayé de tenter de brasser un épouvantail pour amener l'attention ailleurs que sur elle, ailleurs
la pression,
que sur son
là.
Mari.
Oui, oui, exactement.
Elle dit Donald Trump devrait venir témoigner. Il y a des documents qui ont soudainement disparu, qui n'ont pas été rendus publics, qui devraient être rendus publics. Écoute, on est dans un gros show politique. On est dans un gros show politique et de toute façon, ces témoignages-là sont devant la Chambre des représentants. Ça se passe devant du personnel politique. C'est pas un tribunal. Ça semble être plus un spectacle ou un tribunal populaire. Faut laisser les institutions faire leur travail. Les documents qui ont été rendus publics peuvent se creuser, mais en même temps, encore là, tu sais, s'il y a du travail indépendant qui a été fait par des agents au service de services de renseignement secret, parce que c'est ce qui semble peut-être se dessiner là-dedans pour faire chanter du monde, pour détenir de l'information compromettante. Tout ça, si c'est ça a été orchestré ou utilisé par des services de renseignement secret, ben on sait bien que les documents qui vont être rendus publics ne sont pas les documents les plus incriminants.
C'est clair.
Donc, t'as des récits qui pointent vers, mais on peut s'amuser longtemps avec des récits qui pointent vers un et vers l'autre.
Mais est-ce qu'on met Bill Clinton sur ce siège-là parce qu'on veut juste détourner l'attention de la proximité entre Donald Trump et Jeffrey Epstein? Parce que c'est ce qu'ils mentionnent, eux autres, là-bas. Là. Comme quoi, eux autres, ils n'ont rien à voir là-dedans. Puis si on fait ça, c'est juste pour mettre dans l'embarras les Clinton puis relâcher de la pression sur Donald Trump. Parce qu'on nous dit que le ministère de la Justice, et ça, encore là, c'est eux qui le mentionnent, on nous dit que le ministère de la Justice aurait empêché la publication de documents qui relayent les accusations d'une femme affirmant avoir été agressée sexuellement quand elle était mineure par Jeffrey Epstein et par Donald Trump.
Oui. Donc, ces documents-là, le département de la justice, suite à ces allégations de Hillary Clinton, a dit que le département a dit qu'il ferait les vérifications pour voir qu'est-ce qui s'est passé dans ces pièces justificatives qui n'ont pas été rendues publiques. Donc, ils ont dit qu'ils allaient corriger la situation si c'était effectivement avéré. En même temps, ce qui est allégué par Hillary Clinton, c'est que ces pièces qui ne seraient pas rendues publiques seraient des accusations portée par une victime présumée en 2019. Donc, en 2019, tout d'un coup, il y a une dame qui se présente puis qui dit « Moi, quand j'étais mineure, il y a une trentaine ou une quarantaine d'années, j'aurais été agressée sexuellement. » Est-ce qu'une plainte portée par une victime alléguée, c'est un document incriminant encore là? Il n'y a pas eu procès, il n'y a pas eu condamnation. Donc, on est toujours dans les allégations, beaucoup, beaucoup. En ce qui concerne Bill Clinton, il y a quand même des photos, il y a quand même de la documentation qui mérite d'être étudiée en ce qui le concerne. Et il faut savoir.
On parle du monsieur
que...
là, qui a dit qu'une pipe, donc une fellation, ce n'était pas une relation sexuelle.
Oui, c'est ça. Il y a un passé, Bill Clinton, qui l'accompagne.
Ouais, c'est
ça.
Avec la stagiaire Monica Lewinsky.
Il n'est pas blanc. Il n'y a pas une réputation blanche comme neige, Bill Clinton.
Mais je connais beaucoup de gars qui ont risqué leur vie en tentant d'expliquer ça à leur conjointe comme quoi une fellation, c'était pas une relation
sexuelle. Ça n'a pas fonctionné.
Tu n'es pas trompé.
Puis la conjointe ne va pas en commission parlementaire pour le défendre?
Non, c'est parce que lui, il avait menti. Il avait dit non, j'ai jamais couché. J'ai jamais fait l'amour avec Monica Lewinsky. Puis finalement, il est obligé d'admettre qu'il y avait eu une fellation, mais que selon lui, une fellation, c'était pas une relation sexuelle.
Puis tu sais, si tu peux tomber dans le piège d'avoir des rapports intimes avec ta stagiaire à la Maison-Blanche, dans le bureau ovale, ça veut dire que toi, les pièges qu'on te tend, t'es vulnérable.
Non, mais c'est vrai, j'adore ce que tu dis.
Parce que, on va se le dire, là, une stagiaire dans le bureau ovale, c'est un piège. Là. Il y en a qui s'imaginent de la grosse romance. Puis faire chanter un homme puissant, c'est la meilleure tactique. Oh, oui. Alors, il a démontré qu'il était faillible là, à cet égard, à tomber dans des pièges, finalement.
Je suis persuadé que c'était rempli de caméras, moi, ça, le bureau ovale.
Je sais pas.
Je veux dire, c'est l'homme le plus important de la planète. C'est l'homme le plus puissant de la planète.
Fait que si quelqu'un réussit à s'infiltrer puis rentre dans le bureau ovale, faudrait bien savoir qu'il y a quelqu'un qui est là.
Peut-être des images de ça qui existent.
Il a demandé avant d'éteindre les caméras.
Comme dans les films.
Ouais,
peut-être.
Puis là, il a amené Monica.
Mais quelle époque, quelle époque. Hey, rappelle-moi les règlements à l'Assemblée nationale. Les députés, quand ils sont à l'intérieur du salon, sont protégés contre toute poursuite lorsqu'ils avancent des choses sur d'autres députés, exemple, ou encore sur le premier ministre. Mais à partir du moment où ils sortent et sont dans les corridors, si, exemple, t'es député puis ils te portent une accusation puis ils te déclarent coupable sur le champ, toi, tu peux être en mesure de le poursuivre.
Ouais.
Dans le cas de Bruno Marchand était, pendant un conseil de ville, il est à l'intérieur des murs de l'hôtel de ville, bien entendu. Il s'adressait à une citoyenne. La citoyenne tentait d'imiter Pierre-Luc Lachance d'une façon un peu particulière où, au lieu de toucher son cœur, elle mettait sa main dans les airs, puis retouchait son cœur, puis remettait sa main dans les airs. Et là, on était dans les moments où Elon Musk avait fait ce fameux signe nazi. Puis là, le maire Marchand, qui est excellent en communication, soit dit en passant, ce gars-là pourrait donner des cours à l'Université Laval, a dit « Madame, je vous arrête tout de suite », parce qu'il n'était pas d'accord avec son discours. « Vous pouvez pas me parler ici, dans ces murs, en me faisant des signes nazis, alors qu'elle ne faisait pas de signes nazis. Mais cet article-là, et son nom à elle, est allé dans tous les articles le lendemain comme quoi elle faisait des signaux nazis, et ça aurait scrappé sa vie. Et elle est en train de poursuivre la ville pour 400 000 $. Donc, le maire Bruno Marchand, qui avait refusé de s'excuser à l'époque, puis par la suite, quand il l'a fait, bien, je m'excuse de l'impact, mais je ne m'excuse pas de l'avoir accusé d'avoir fait des signes nazis, parce que selon moi, c'était des signes nazis. Il n'est pas protégé, lui, à l'intérieur des murs.
C'est-tu dégueulasse, cette histoire-là, hein? C'est, je trouve ça dégueulasse. Une simple citoyenne qui est venue s'exprimer, pour ceux qui ont vu les images, ceux qui les ont pas vues, allez les voir. Une simple citoyenne qui revendique déjà, dans son témoignage, là, elle dit déjà avoir été maltraitée par le conseiller
et
Pierre-Luc Lachance.
Et ça, on avait fait entendre
là,
des audios aussi à Boulevard de Pierre-Luc Lachance qui se fâche en pleine séance de comité de citoyens.
Oui.
Parce que ça part de l'histoire que la rue Olivier, dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, on enlève du stationnement pour on met des bacs à fleurs. Mm-hmm. C'est aussi simple que ça.
Ouais.
Puis Vicky Lépine, avec un groupe de citoyens, ils vont et disent « Ça n'a pas d'allure. On a déjà de la misère à recevoir notre visite. Qu'est-ce qu'on va faire? Et on ne parquera pas le monde dans la côte Salaberry tout de même. » Et là, Pierre-Luc Lachance se fâche. Donc, c'est pour ça qu'elle retentit au conseil de ville par la suite.
Ben oui, tu fais bien de mettre en contexte. Et donc, elle revendique ou elle affirme avoir été maltraitée ou mal reçue dans un conseil de ville précédent par le conseiller. Ouais. Elle dit, moi, je me sens brimée.
C'est pas un conseil de ville, c'est un comité de citoyens.
Un comité de citoyens, pardon.
Exactement.
Okay, merci.
Pas de problème.
Et puis, dans ce récit-là, ben, elle se fait... Tu veux attaquer un de nos conseillers, check bien ça, là. T'as pas eu assez d'humiliation, on va t'humilier bien comme il faut.
Elle tire de la gravelle au maire, puis le maire, il répond à envoyer un bazooka.
Absolument, absolument, absolument. Mais tu l'as bien dit, c'est un excellent communicateur. C'est d'ailleurs un communicateur plus doué, probablement, qu'un administrateur de grande ville ou de métropole, de capitale nationale. Parce que, justement, là, il fait pas honneur à ses fonctions du tout.
Mais il est pas protégé à l'intérieur des murs. C'est une information que j'avais pas. Je savais qu'à l'Assemblée nationale, il était protégé à l'intérieur des murs, mais dans le cas de Bruno Marchand, il n'est pas protégé parce qu'on permet cette poursuite-là. Là, on a défrayé quoi? 53 000 $ max, de ce que tu nous as expliqué ce matin?
53 000
à un cabinet d'avocats. Je pensais que la Ville de Québec avait son propre contentieux parce que c'est souvent ce qu'on
parle. Ah, ben non!
Ouais.
Long, mais c'est
un contentieux qui n'est pas assez bon pour...
C'est ça.
OK. Fait qu'on est allé chercher de l'aide extérieure. Fait qu'on a déplié 53 000, alors que s'il s'est excusé dès le départ, ça n'aurait pas coûté ça. Et là, sur la tête des gens de Québec, ben, il y a 400 000 qui est en jeu. Puis je suis pas mal persuadé qu'elle va le gagner, parce qu'il a grandement nui à sa réputation. Puis je salue Audrey, qui était dans le retour, qui disait... ouais, mais là, je veux dire, si elle n'avait pas reparlé, on n'aurait pas réentendu parler... Puis j'avais eu comme réflexe d'écrire Vicky Lépine sur Google. Et là, chaque fois que t'écris
son... C'est juste
son...
le salut nazi.
Chaque fois que t'écris son nom, c'est écrit salut nazi.
Ben, c'est pour ça qu'elle poursuit Bruno Marchand, parce qu'elle dit maintenant... Puis,
combien ça vaut?
Je sais pas, parce que c'est une honnête citoyenne qui travaille pour un organisme à but non lucratif. Quand elle est allée au conseil de ville, c'est juste que Pierre-Luc Lachance, avec la main sur le cœur, se vantait de ce qu'il faisait dans Saint-Roch. Et elle a pris en dérision ce que Pierre-Luc Lachance faisait en disant « Voici ce que moi je fais pour mon quartier et voici comment je suis traité par Pierre-Luc Lachance. » Et au lieu que Pierre-Luc Lachance ait l'humilité en conseil de ville de dire « Vous avez raison, Mme Lapine, je m'excuse l'autre fois au comité de citoyens, j'ai haussé le ton, je n'aurais pas dû hausser le ton. » Ben, Bruno Marchand en a rajouté en disant « Vous faites un salut nazi. » Fait que tout ça part du fait qu'on a deux hommes politiciens qui avaient juste à dire « Je m'excuse à Mme Lépine. »
Des égaux démesurés, hein?
Et ouais. Mais c'est non pas c'est non pas
j'assume mes
ça,
propos,
là.
Je sais que je suis dans le jugement absolu, ouais. Mais quand même, on est quand même face à une citoyenne qui s'est fait humilier publiquement.
Ben oui!
Et l'humiliation perdure parce que quand il y a refus de s'excuser, quand il y a refus d'admettre que c'était exagéré comme propos, là, elle se fait... l'humiliation continue, perdure, là. Et ça, ben ça doit être extrêmement difficile aussi à vivre, okay. cette idée-là que... Non.
On est en 2020.
Je continue de trouver que c'était condamnable, vos gestes.
On est en 2026, Jacinthe-Ève. Tu as travaillé dans le monde des affaires, tu as travaillé en politique aussi. C'est-tu mal vu de s'excuser quand on a fait une erreur? Moi, je trouve ça humain.
Ben oui.
Je vais plus... Max va devenir un jour président de la République de l'île d'Orléans, selon moi.
C'est un beau coin.
Tu sais, puis je le sais que je le connais, là. Quand il fait des erreurs, ça arrive rarement, mais quand il fait des erreurs, il va s'excuser. Puis tu sais quoi? S'il s'excuse, je vais OK, mais... C'est un gars-là, comme moi.
Dépend si je pense.
Il est pas parfait.
Des fois, je pense que j'ai raison. Pareil, après mon erreur, là, je m'excuserai pas. Mais quand je sais vraiment que j'ai fait une erreur, là, comme tu dis, c'est rare. Là, mais quand je le sais que j'ai fait une erreur, je m'excuse.
Mais je vois ça comme une force. Moi, je suis un être humain d'être capable de faire un retour sur soi puis de dire, savez-vous quoi? Moi, là, à l'hôtel de ville, ce soir-là, je ne l'ai pas perçu de même, mais je me rends compte que ça avait pas de bon sens. Il est arrivé l'histoire d'Elon Musk, puis là, j'ai vu cette madame-là, puis là, je me disais, t'es en train de me faire un Elon Musk, ça a donc bien pas de sens, puis j'ai envoyé ça comme ça. Je m'excuse, madame, de vous avoir fait du tort. Ouais. Je l'aurais senti plus près de sa population.
Ben oui, absolument. Quand les politiciens, il y en a qui prennent le temps de s'excuser après coup. Bon, des fois, c'est pour des raisons électoralistes. Des fois, il y a un objectif derrière. Mais ça fonctionne toujours beaucoup mieux que de donner cette impression d'avoir un ego complètement démesuré, d'être au-dessus de la mêlée, d'être déconnecté du peuple et de foncer en ligne droite dans un mur comme il le fait. Ça lui permettrait de redorer son image beaucoup. Mais en même temps, il bénéficie tellement d'une belle... Il y a une belle couverture médiatique. Hein. Il est vraiment apprécié beaucoup des médias montréalais, notamment. C'est pas pour rien qu'il va faire souvent des entrevues à Montréal. Ben oui. Et ça, ben, ça lui donne l'impression que le petit peuple, quand même qu'il y aurait un certain pourcentage qui ne l'aime pas ou qui trouve qu'il n'est pas proche des gens, ben, ça l'affecte.
Ben, on le voit à l'heure actuelle qu'il est dans sa bulle. Ouais. T'es juste avec les travaux du tramway, de la façon qu'il planifie les choses. Les commerçants apprennent dans les médias ce qui va leur arriver. Ouais. Puis après ça, quand ils ont des réunions, Bruno Marchand ne se présente même pas. C'est les fonctionnaires de la ville, puis ils font juste répéter ce qu'ils ont pris dans les médias. Ça n'a pas d'allure, Kim. C'est les gens qui nous font vivre, qui accueillent nos touristes.
Ben ouais.
Pas de sens.
Je répète, je te repose la question. C'est-tu mal vu en 2026 quand tu es en affaires ou quand tu es en politique de t'excuser? Moi, personnellement, je pense pas. J'avais croisé Jean Charest lors d'une campagne électorale, puis son équipe, son Advance Team qu'on appelle, se posait la question à savoir... Si l'autobus de Jean Charest rentre dans le stationnement, de quelle façon elle peut se retourner pour pouvoir sortir de face? On avait dit, non, mais il va juste rentrer très près de la porte, là, parce que pour des mesures de sécurité, bien entendu. Puis après ça, ben, l'autobus va tout simplement reculer. Et
non,
on nous avait
non,
dit,
non,
l'autobus de Jean Charest ne doit pas reculer. Fait que, C'est-tu parce que tu es en politique, il y a des choses que tu as le droit de faire, des choses que tu n'as pas le droit de faire?
Oui, bien, on est dans un monde d'image, de perception, beaucoup plus que dans un monde de livraison, d'atteindre des objectifs. On est vraiment dans un monde de perception en politique et bien, il y en a qui ont très bien compris les codes. En même temps, s'excuser, c'est admettre qu'on a fait une erreur. Est-ce qu'il est pris là-dedans, notre maire de Québec, dans cette perception que s'il admet qu'il a fait une erreur, il admet qu'il est infaillible? Mais franchement, moi, j'écoutais Bernard... C'est un autre contexte, mais Bernard Drainville...
Ouais.
Bon, présentement, il est en course pour la chefferie de la Coalition Avenir Québec.
Il a le couteau entre les dents.
Vous allez dire qu'il est dans un contexte particulier, mais quand même, dans un podcast à Yann et Frank, qui a accordé une entrevue à Yann et Frank, le podcast, il a dit... le dossier du troisième lien, on a géré ça en jambon. Hey, moi, j'ai trouvé ça rafraîchissant.
Ben oui.
C'est sûr que là, il cherche de la sympathie. Je le sais bien qu'il y a une intention d'aller chercher de la sympathie de la part des gens, mais c'est une admission d'erreur, ça. Et ça fait du bien d'entendre un politicien plutôt que de dire « Oui, mais vous savez, c'est compliqué, les fonctionnaires, les ci, les ça, tatata, les études. »
Une admission d'erreur que François Legault et Geneviève Guilbeault feront jamais.
Absolument, absolument.
On va continuer de le gérer en jambon en laissant le corridor central, mais ça... Tant qu'à être parti en jambon, hein?
Ben non, mais il nous l'a dit sur nos ondes. Hey, voyons donc. Voyons, tant qu'à pas en faire, aussi bien en faire un.
Ouais, oui. ça se résumait à vaut mieux un mauvais projet qui va coûter extrêmement cher que rien pantoute.
Ben ouais.
Jacinthe Varelle, je te souhaite de passer un super de beau week-end. On se rejase vendredi prochain.
Bonne fin de semaine.
Salut.
Bonne fin de semaine à toi.
Important accident sur Henri IV, direction nord. C'est toujours d'actualité de ce que je comprends. La fermeture de deux voies sur trois, hauteur boulevard du versant nord. Quand même un solide ralentissement là, qui s'étire jusqu'à peu près jusqu'au pont. Fait que Henri IV, si c'est possible de l'éviter, je vous le conseillerais.
Boulevard 102.1.